RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. C'est reparti pour une semaine de discussion, de débat en direct sur RMC et RMC Story, c'est-à-dire que vous êtes avec les grandes gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Bruno Poncet, le cheminot, bonjour Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
À tes côtés, Charles Consigny, l'avocat, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Barbara Lefebvre, l'enseignante et des nôtres, bonjour Barbara.
Bonjour les amis.
Nous recevrons tout à l'heure Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, il sera face au GG. Est-ce que nous recevons l'homme qui a ruiné la France? On verra ça. Avec lui. Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne électorale hier à Saint-Denis. Il est, selon ses dires, le meilleur rempart contre le suprémacisme incarné aujourd'hui par le Rassemblement National. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, effectivement, c'est le mieux placé? Est-ce qu'il a raison de lancer sa campagne maintenant? Est-ce qu'il a trouvé les bonnes formules, le bon ton? On en parlera avec vous à partir de 10h. D'abord, premier sujet de discussion. Le drame, la mort, l'assassinat de Liana et surtout la décision de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, de convoquer tous les procureurs. Et il va leur dire, le garde des Sceaux, vous me rouvrez tous les dossiers, toutes les plaintes qui touchent les enfants. Il était hier chez nos confrères de LCI.
Au 14 juillet, je vais les réunir à nouveau. Et moi, je ne partirai pas en vacances. Et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque, s'il y a des difficultés ici ou là, peut-être des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, peut-être des problèmes d'experts parce qu'il manque des psys ou des médecins légistes. Il peut y avoir ce genre de problème. Ce n'est pas manifestement le cas dans l'affaire de Liana, mais je parle en général. Et personne ne partira en vacances. Donc je n'aurai pas la certitude que toutes les plaintes pour lesquelles les procureurs de la République ont ouvert une enquête qui concerne les enfants n'a pas été correctement...
Pardon, Jean. Il n'y aura pas de vacances tant qu'on n'aura pas rouvert tous les dossiers et fait le point.
Oui, branle-bas de combat du côté de Gérald Darmanin qui, bien sûr, lui-même est menacé par cette affaire qui en fait, provoque un séisme, on le voit bien, à la fois judiciaire et politique, parce que j'ai entendu notamment Marion Maréchal demander sa démission, mais il y en a d'autres aussi qui demandent sa démission. Alors, Gérald Darmanin, il contre-attaque, il convoque les procureurs, il ordonne jusqu'au 14 juillet pour reprendre l'intégralité des plaintes pour violences sexuelles sur enfants. Près de 70 000 plaintes sont en ce moment sur les bureaux des procureurs. Le chiffre est impressionnant. On a appris d'ailleurs à ce sujet, je sais pas ce qui s'est passé là, on a appris d'ailleurs à ce sujet que la procureure d'Auch, qui est un peu dans le collimateur, avait demandé quand même aux gendarmes en février d'interpeller l'homme en question, Jérôme Barella, et ça n'a pas été fait. Et ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé entre février et juin et la mort de Liana. On a entendu aussi Bruno Retailleau demander que les magistrats puissent rendre des comptes en créant une cour spéciale pour les juger. Bref, il y a beaucoup de propositions. Et puis surtout cette banderole que vous avez vue sans doute hier, la Marche Blanche qui était très émouvante, « Plus jamais ça ». Est-ce que vous y croyez au « Plus jamais ça »
Charles ?
Tout le monde est un peu interdit.
Peut-être non, parce qu'on n'y croit pas, finalement.
Non, bah, le plus jamais ça, bien sûr que non. Mais d'ailleurs, il y a fort peu de sujets sur lesquels on peut dire plus jamais ça. Ce que je pense quand même, c'est que, au fond, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens s'étaient résignés à l'écroulement complet, en réalité, du système judiciaire français et au fait que, eh bien, qu'on soit victime de... fait de nature pénale ou de fait de nature civile, il ne fallait pas espérer en France saisir la justice pour obtenir un quelconque résultat. Ça, c'est quand même quelque chose qui était bien installé dans les esprits, et notamment dans les esprits des élites politiques et même judiciaires quasiment. C'est-à-dire que bon, la justice, elle est incroyablement lente. C'est un service public défaillant. On a au civil des audiences qui nous sont fixées maintenant pour 2028. Il faut donc, ça veut dire que la justice n'est pas rendue en réalité. Et en matière pénale, on voit bien qu'une plainte, avant que vraiment elle donne lieu à l'ouverture d'une vraie enquête, qu'on identifie les gens. Alors je dis pas que ceux qui font ce travail déméritent, hein, parce que il y a beaucoup de quand même d'affaires qui aboutissent, mais enfin il y en a quand même énormément aussi qui n'aboutissent pas. Et donc il faut s'armer de patience, saisir un juge d'instruction, avoir un avocat qui harcèle le juge, etc., etc., pour arriver à faire bouger les choses. Et ce qu'on voit, c'est que les Français, eux, ne sont pas dans cet état de résignation et ils disent non. On veut une justice, et on veut une justice notamment pour ce qu'il y a de plus important pour nous, qui est nos enfants. On ne veut pas que nos enfants soient livrés à eux-mêmes et que le service public judiciaire soit défaillant s'agissant de nos enfants. Donc ça, je pense que c'est un message qui doit être très fortement entendu par les politiques, certes, mais les politiques, ils surfent sur un truc, ils vont sur un autre, bon... Mais surtout par les juges, les procureurs, les juges, les policiers, qui, à mon sens... doivent prendre ça comme une espèce d'électrochoc.
Ce qui est intéressant, c'est la stratégie de Gérald Darmanin aussi. C'est-à-dire qu'il prend, il y a un fait qui est dramatique, et il prend l'opinion publique à témoin. Tu vois, là, il utilise un peu l'opinion publique en disant, les procs, regardez, je vais les faire venir, ceux que vous n'entendez jamais, ceux que vous ne voyez jamais, et je vais leur dire, pas de vacances, vous allez bosser, vous allez rouvrir les dossiers. Donc,
c'est une question de vacances?
Je pense que c'est une question aussi.
J'ai cru comprendre que les procureurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le jeudi Darmanin, on avait l'impression que finalement, les procureurs bossaient pas assez, que tout d'un coup, il fallait les réveiller. Je pense d'ailleurs, les procureurs ne sont pas contents, on écoutera tout à l'heure leur représentant qui est assez énervé de tout ça parce qu'ils ont l'impression d'être boucs émissaires. Mais en même temps, c'est normal qu'ils rendent des comptes. Mais Darmanin laisse croire que finalement les procureurs ne bossent pas en France. Donc c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils bossent ou pas, bossent pas?
Barbara?
Déjà, les procureurs, il y a 2100 dans les procureurs, et je mélangeais avec tout ce qui est substitut, procureur adjoint, on a 164 procureurs en première ligne. 36 procureurs généraux. Donc, on voit bien, on a 1600 procureurs en première instance, 465 en appel. Donc, et on a en moyenne, donc, 3 procureurs pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est le double. Donc, je ne crois pas qu'ils soient fainéants. Je crois qu'ils sont débordés. Et je pense aussi qu'il y a certains parquets qui s'occupent de certains sujets qui, eux, par contre, vont en général assez vite pour interpeller, auditionner, et donner une ordonnance d'audience pour un agriculteur ou pour un délinquant idéologique, ça va plus vite que pour un pédocriminel, oui. Alors peut-être qu'effectivement, les enquêtes vont plus vite quand il s'agit de sanctionner les délinquants idéologiques, et je le dis bien de tous bords, hein, 360 degrés, je parle pas juste de ma petite personne, je parle de tout le monde, hein, mais je suis pour la liberté d'expression à l'américaine. Je pense d'ailleurs que ça libérerait beaucoup les cours de justice et les procureurs s'ils pouvaient s'occuper essentiellement des atteintes aux personnes, des menaces, des coups et blessures. Je pense que c'est plus important. Je rappellerai quand même un retraité de 77 ans qui, pour une bande avait été immédiatement auditionné par la gendarmerie et qui immédiatement s'était vu délivrer par le parquet d'Evreux un stage de citoyenneté parce qu'il avait insulté Macron sur une banderole suite aux déclarations d'Emmanuel Macron pendant le Covid. Je veux emmerder les Français. Donc je pense quand même que les procureurs sont effectivement sous-effectifs, qu'effectivement les enquêtes peuvent être longues, quoique dans certains cas elles vont assez vite, mais que aussi il y a un gros problème d'organisation. Je voudrais juste terminer sur un point. On a eu le rapport d'inspection, l'inspection générale de la justice sur l'affaire Elias. Mmh. Il a été rendu, le rapport d'inspection. Le rapport dit, c'est pas la faute de Madame X ou Monsieur Y au parquet. C'est ça qui est pire. C'est un enchaînement de petites erreurs de procédure, de petites lenteurs à droite, de petites lenteurs à gauche, de on s'est trompé sur ça, mais finalement c'est noyé dans le reste. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, et c'est pour ça que attaquer la procureure de Hoche, c'est complètement vain. D'abord parce que je ne pense pas qu'elle soit responsable à elle seule. C'est toute une organisation. Il y a une question de moyens, on y reviendra. Et je suis navrée, en 2015, le budget de la justice était 7 milliards. Aujourd'hui, c'est 13 milliards. Donc, il y a eu une accélération massive sous Monsieur Macron des fonds, parce que la justice, elle était sous-dotée. Donc quand j'entends Mathilde Panot parler de clochardisation, elle ferait mieux de regarder ce qui s'était passé avant. Donc là, il y a de l'argent. Le problème, c'est l'organisation. Regardez le rapport sur Elias. Ça montre bien qu'à tous les niveaux, il y a quelqu'un qui a pas correctement fait son boulot. Donc c'est pas Monsieur X, c'est pas le procureur, c'est pas le gendarme, c'est pas le policier, c'est tout qui est mal organisé. Et l'organisation, c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique. Donc Monsieur Darmanin, en effet, a une responsabilité politique, parce que c'est lui qui organise la justice.
Bruno ?
Moi, je reprends ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire que si la procureure a demandé une enquête en février et que rien n'a été fait, bah, évidemment que Darmanin, aujourd'hui, c'est de sa faute, parce que t'es responsable contre la responsabilité, à un moment donné, il faut que tu tires les conséquences, mais Nunez aussi, en fait. Parce que tu demandes à des gens de faire des enquêtes et qu'ils les font pas, c'est-à-dire que tes services ne t'écoutent pas. Donc tes services ne font pas leur boulot, et aujourd'hui il y a une gamine de 11 ans qui est décédée à cause de ce fonctionnement ou de ce non-fonctionnement. Après, moi, Barbara a raison, en fait le budget est passé de 7 à 11 ou à 13, sauf que dedans t'as la pénitentiaire. Donc je sais pas où va l'argent. Et aujourd'hui dans les pénitentiaires,
42% pour la pénitentiaire.
Aujourd'hui c'est pour où va l'argent. Aujourd'hui les gens te disent que les prisons sont surpeuplées, mais en fait il y a eu de l'argent d'investir dedans, et aujourd'hui tu te rends compte que nos tribunaux,
encore, on n'a pas construit des places promises parce qu'on a construit 4 000 sur les 15 000.
Et donc aujourd'hui tu peux te poser la question, où va cet argent qui est distribué à la justice. Et puis moi je pense que le plus jamais ça, malheureusement on n'arrête pas de le dire, et ça fait à 80 ou 100 ans qu'on dit ça pour attirer l'arigot sur plein de sujets différents, mais en fait c'est pareil, parce qu'il y a pas une vraie volonté. Il y a pas une vraie volonté qu'à un moment donné t'éduques tes garçons déjà, pour éviter que très tôt, pour éviter qu'à un moment donné on sexualise une gamine de 11 ans. Moi je suis là ce matin, il y en a une en face de moi dans le métro. Je suis en train de me dire mais c'est une gamine comme ça qui est décédée parce qu'il y a pas un pervers. Je me dis mais c'est pas possible. À quel moment tu vois tu sexualises une gamine comme ça, tu vois. Et je me dis c'est pas possible. Et la sexualisation va au viol après. Et donc en fait aujourd'hui le plus jamais ça, c'est un vrai fond dans la société qu'il faut faire. Et c'est une vraie vague, mais sauf qu'on en est très loin.
Pour rebondir sur ce que dit Bruno, parce que moi ce qui me frappe dans les témoignages, c'est que beaucoup de magistrats disent on est débordé par les dossiers d'agression sur enfants. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a effectivement plus de pervers aujourd'hui, ou est-ce que peut-être avant il y en avait autant? Mais avant, on s'en foutait que c'était la loi du silence. Ouais. Et que ça se passait dans les familles, ouais. Et qu'il n'y avait pas de témoignages, et ça ne remontait pas.
Moi, je veux répondre à Bruno sur où va l'argent. Parce que le régalien, c'est à peine quelques dizaines de milliards d'euros. Si c'est 30 milliards, c'est le bout du monde. Alors que la protection sociale en France, c'est-à-dire le totem absolu de Bruno Poncet, c'est à peu près 650 milliards d'euros. Donc le ratio est très vite fait, c'est-à-dire que tout l'argent public va dans les retraites, la sécurité sociale, l'assurance chômage et les allocations diverses et variées.
Mais tu m'expliques pas où vont les 42% des 11 milliards à la pénitentiaire, par exemple.
Moi, ce que je te dis, d'abord la pénitentiaire, je salue les agents pénitentiaires qui nous écoutent, ils sont aux 35 heures.
Ça va pas dans leur salaire, en tout cas.
Ah, ça, c'est clair.
Ils sont aux 35 heures, je pense qu'il faut les passer à 40 heures, déjà, et qu'ils aient un peu moins de vacances, peut-être. Mais je leur dis avec beaucoup d'amitié. Je pense que c'est valable pour toute la fonction publique. Oui, mais s'il faisait 40 heures, il serait mieux payé. Et ensuite, je suis désolé, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut la retraite à 60 ans, l'assistanat à tous les étages et le remboursement des massages lymphatiques. Et dans ces cas-là, on ne peut pas payer une justice correcte. Non, mais tu sais, maintenant, le moindre ostéo est remboursé. Les gens veulent que leur psychologue soit remboursé. Heureusement, l'homéopathie a été déremboursée.
Je rappelle que l'État offre des séances de psy maintenant.
Les séances de psy, les gens sont dans un tel état. C'est curieux quand même.
Qui nous a mis dans cet état?
On a soi-disant le meilleur système au monde et les gens ont besoin qu'on leur paye des séances de psy. Ça, c'est quand même.
C'est un mutuel qui paye tout ça.
Et donc, moi, j'ai pas de mutuel. Et donc, je constate qu'il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des missions essentielles.
Ouais, mais.
Dont on se prive parce qu'on gaspille notre argent ailleurs.
Mais après, est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi de la part des procureurs? C'est-à-dire, moi, quand tu vois arriver des plaintes avec des meurtres, des crimes, des vols, des voies de fait, et puis le témoignage d'une enfant, tu vois, comme pour Rosa. Est-ce que c'est hiérarchisé ou pas? Où va le témoignage de l'enfant qui est venu avec
ça? Ça doit être priorisé.
C'est pour ça que...
On se demande.
En fonction de la gravité des faits.
Voilà, donc... au-delà de les convoquer, Darmanin, ce qu'il leur dit, c'est pour ça que c'est malin de prendre l'opinion publique aussi à témoin en disant, sur les 70 000 plaintes, je veux que vous repreniez tout ça. Est-ce que vous vous en occupez vraiment?
Non, mais
de quoi vous vous occupez?
Mais à mon avis,
quelles sont vos priorités?
Juste, monsieur Darmanin, il était ministre de l'Intérieur au moment de l'assassinat de Lola et de Philippine. Donc il était directement responsable de la non-réalisation de l'obligation de quitter le territoire des deux assassins. Donc bon, moi, je commence à trouver un peu fatigant les. Ah, je tape du poing sur ta main. Tu posais tout à l'heure une question sur la question de l'impunité. Moi, sur la question de la pédocriminalité. Moi, je pense quand même.
Est-ce qu'il y a plus de pédocriminels aujourd'hui qu'avant?
Je pense qu'il y a plus de passage à l'acte aussi. De passage à l'acte. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'impunité. Je pense qu'on a un vrai problème dans ce pays. Je sais qu'Abel et Laura l'expliquent souvent et qu'ils sont peut-être d'ailleurs mieux placés que moi pour le dire parce qu'ils s'impliquent là-dedans et qu'ils travaillent là-dessus. Mais je pense qu'il y a. Dans la société, des gens qui ont une perversité absolument dégueulasse, que les réseaux sociaux ont permis à ces gens aussi d'avoir accès de façon plus rapide à la fois la pornographie et la pédopornographie, mais du coup aussi comme il y a une impunité de la justice. Eh bien, je pense qu'il y a plus de passages à l'acte, oui. Donc, là, je pense que oui, il y a plus de pédocriminels qu'avant. Et la France, en Europe, avec les Pays-Bas et l'Allemagne, est dans le top 3. Hein. Donc, excusez-moi, il faudrait s'inquiéter. Hein.
Devant la cour criminelle du Loiret, il y a un procès qui s'ouvre de 4 hommes qui étaient au cœur d'un réseau pédopornographique. Les gendarmes avaient réussi à infiltrer les boucles Telegram, Snapchat, entre autres. Et c'est entre 37 et 64 ans, tout profil confondu.
Mais oui.
900 000 fichiers pédopornographiques et les quatre étaient passés à l'acte aussi.
Voilà. Ça sera intéressant de regarder les peines aussi.
Il est 9h20, Gérald Darmanin dit plus jamais ça. Qu'est-ce que vous en dites? On en discute, on en parle. Est-ce que vous y croyez? Vous dites non à 96%, mais la discussion continue justement avec vous au 32-7, dans ce temps avec Julien. Julien qui est du côté de l'Ardèche. Restez avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
On est sur les conséquences de la mort de la petite Liana. Sachant que le suspect numéro 1, Jérôme Barella, il est toujours en détention provisoire et qu'il n'a rien dit pour moi. Il ne dit rien. En revanche, c'est le monde politique qui s'agite, qui va en tirer les conséquences.
Et on ne sait toujours pas d'ailleurs de quoi elle est morte précisément, Liana. Non, c'est quand même un moment important, ça sera le résultat de l'autopsie. Hein.
C'est le plus jamais ça. Julien, bonjour.
Et bonjour les GG.
Bonjour Julien, avec Gérald Darmanin qui convoque les procureurs, vous y croyez ou pas? Dites-moi, le plus jamais ça.
C'est une blague, non? D'où ils sortent ces gens? D'où ils arrivent en fait? Ils arrivent aujourd'hui et ils constatent l'état de notre système judiciaire français. Ils arrivent, plus jamais ça, on n'était pas au courant. Alors d'abord, juste un petit mot, je pense à cette famille, à cette petite, à ses amis. Je fais comme eux en fait, mais moi c'est sincère. Eux ils pensent à tout le monde, mais il n'y a rien qui bouge depuis des années. Barbara avait raison tout à l'heure, elle parlait de cette justice qui y a pas de peine en fait. Il n'y a pas de peine et il y a une lenteur judiciaire pour que tout ça se mette en place. Donc ce que j'expliquais là à vos gars au départ,
au standard, ouais.
Aujourd'hui je suis paysagiste mais j'ai été éducateur dans la protection de l'enfance pendant 14 ans.
Ah.
Ça m'a dégoûté.
Pourquoi?
Ben parce que cette lenteur, si vous voulez, vous êtes avec des mineurs qui ont subi des agressions et il se passe 4, 5 ans, 6 ans avant que l'agresseur puisse être jugé. Pendant ce temps, cet enfant, il se construit pas, il se démonte parce qu'il est en souffrance. Souvent, ils sont placés, donc c'est eux qui sont punis, les agresseurs qui sont dehors. Et souvent, désolé, je parle avec un peu d'émotion parce que c'est...
Oui, parce que vous l'avez vécu à l'intérieur et vous avez vu tous ces enfants détruits, bien sûr.
Exactement, exactement. Et c'est surtout que des fois, en fait, l'agresseur décède avant même qu'il ait pu être jugé. Voilà.
Alors qu'on sait qu'il y a un dossier, c'est vrai que cette lenteur est insupportable.
Julien, si je peux me permettre, lorsque l'agresseur est un parent, c'est pire encore. Parce que je vais vous dire, on connaît tous des histoires, et quand on travaille à l'éducation nationale, hélas, des histoires d'élèves et d'enfants, on en a. Quand vous avez des pères qui sont violents avec la famille, avec l'enfant, et que le juge aux affaires familiales met 5 ou 6 mois à révoquer la garde alternée, et que le gamin, il sait plus quoi faire, il sait plus comment exprimer sa douleur d'être obligé d'aller chez le parent maltraitant, ou bien d'être obligé d'aller à la police pour expliquer pourquoi il veut pas aller chez le parent maltraitant parce que la juge aux affaires familiales, elle est débordée. Eh ben, moi, je vous dis que ça, c'est des gamins perdus, c'est des familles détruites. Donc, les violences intrafamiliales, c'est encore pire.
Exactement. Alors, ce qui me met hors de moi aujourd'hui, c'est que ils arrivent et on dirait qu'ils prennent conscience en fait de l'état de notre système judiciaire. Ça fait des années. Alors, il manque de moyens très certainement, mais il y a quelque chose aussi dans l'application des peines. Oh, il y a un magistrat, enfin, vous l'avez ce dossier là. Ce magistrat là qui a proposé sa fille pour des relations sexuelles sur un site échangiste, sa fille de 12 ans. Attendez monsieur, un an de sursis.
Mais oui, il a pris qu'un an avec sursis.
Non, avec sursis, mais où on est en fait? Les types, ils peuvent commettre des crimes.
Alors, il était magistrat. Est-ce qu'il a bénéficié d'une mansuétude de ses pairs?
J'en sais rien, mais c'est partout pareil. C'est pareil pour tout le monde, en fait, si vous voulez. Il y a des agressions sexuelles, les types, ils prennent rien. Ils prennent moins qu'un type qui va voler un paquet de pâtes.
Il y a aussi le Squarnec, avant que le scandale éclate. Il a été déplacé, oui, il a été signalé au Conseil de l'Ordre des médecins. Il y avait eu des plaintes.
Enfin, le périscolaire parisien,
Même pas du périscolaire. Alors là.
Bien sûr, malheureusement, les vous avez raison, Julien.
Mais parce que les enfants sont pas ne votent pas. Les enfants ne votent pas.
Je dis souvent.
Et les
ne manifestent pas non plus.
Et nos anciens dans les EHPAD abandonnés ne votent pas non plus. Donc on s'en tamponne.
Et la pédocriminalité, ce n'est pas que dans des milieux défavorisés.
Non.
Non, bien sûr.
Voilà.
Julien.
Il y a des choses où on met le couvercle, mais juste une dernière chose.
Je vous en prie, Julien, monsieur.
Les gens vont se faire justice eux-mêmes à force, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'ils vont être juges et c'est eux qui vont appliquer les peines. Vous voyez?
Mais Julien, justement, je vous propose d'écouter...
Aux États-Unis, il y a un monsieur qui a été acquitté pour avoir tué le violeur de sa fille, hein, aux États-Unis. La justice a estimé que c'était de la légitime défense. Et pourtant, il avait prémédité, il y est allé, il s'était bien organisé, il l'a cramé. La justice américaine a considéré que c'était de la légitime défense.
Mais Julien, on va écouter justement le représentant des procureurs qui était invité ce matin d'RMC et d'Apolline de Malherbe.
Il y a beaucoup d'émotions dans cette affaire. Et cette émotion, l'ensemble des procureurs, des magistrats des parquets, du magistrat en général, la partagent. Après, il y a la colère, j'ai entendu. Vous savez, quand on est en responsabilité, la colère, elle est souvent très mauvaise conseillère. Quand on est en responsabilité, il faut pouvoir garder la tête froide. Et aujourd'hui, je trouve que ça dérive. Jeter en pâture des magistrats du parquet, dont le but, la mission, la conviction, c'est que tous les matins, on se lève pour faire en sorte que ces drames n'existent jamais. Et je veux, comme tout le monde, comme les Français... comprendre, savoir ce qui s'est passé. Moi, j'en sais rien. L'enquête et l'information judiciaire, elle est secrète. J'ai trouvé très bien que notre ministre diligente une inspection, comme le ministre de l'Intérieur, parce que l'inspection, elle va répondre à ces questions.
Attention, la colère est mauvaise conseillère. Oui. C'est ce que dit Frédéric Chevalier, qui est le président de la conférence des procureurs.
Bon, il se protège derrière le secret de l'enquête. C'est amusant parce que toutes ces enquêtes qui arrivent dans la presse, en général, elles sont quand même transmises par des magistrats. Donc, il y a quand même d'hypocrisie. Le secret d'instruction, c'est quand ça les arrange. Quand certains procureurs ou juges veulent faire avancer des affaires, ça arrive sur le bureau de Mediapart. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse.
Surtout pour les politiques.
Et puis, la colère, la colère est mauvaise conseillère. C'est ce que dit l'adage populaire. Enfin, la colère, c'est celle des Français. Les Français, ils n'ont que la colère. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire d'autre? Ils sont en colère. Et c'est aussi aux procureurs de démontrer qu'ils sont au service des Français. Parce qu'encore une fois, ce sont des hauts fonctionnaires payés avec nos impôts et qui sont là pour travailler pour nous, en quelque sorte, et rendre la justice au nom du peuple français. Donc, ils ont des comptes à rendre.
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, un citoyen peut porter plainte contre un magistrat. C'est en 2024, pour la première fois d'ailleurs, un juge d'instruction a été sanctionné sur la base d'une plainte directe d'un citoyen. C'était justement, il a été sanctionné pour inactivité. Il avait mis trop de temps, plus de 3 ans, à rendre une ordonnance de clôture. Donc, il faut rappeler aux Français qui le souhaitent, qui sont victimes des lenteurs de la justice et dont ça peut impacter la vie professionnelle, personnelle et financière, que depuis la réforme de 2008, ils peuvent... accompagné d'un avocat, porter plainte contre un magistrat qui n'a pas fait ou
Sandra,
pas assez bien fait.
Sandra est claire de notaire, elle est du côté du Finistère, elle veut réagir aussi. Bonjour Sandra.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour, est-ce que vous pensez que les magistrats vont rendre des comptes, que effectivement on va arriver à un nouveau départ, à une prise de conscience ou pas alors, Sandra?
Ben j'espère. Déjà moi, je comme beaucoup, je suis maman et je suis scandalisée parce que j'entends, parce que franchement c'est pas possible quoi de laisser faire des choses comme ça. Et je pense que les personnes qui sont comme ça tout le temps à la tête, que ce soit de l'État, le gouvernement, les magistrats, etc., on leur demande pas assez de rendre des comptes. On demande aux citoyens de rendre des comptes. Par contre, bah les autres, j'ai l'impression que c'est normal. Bah c'est, on trouve toujours des excuses. On n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de moyens. Enfin, il y a un moment donné, il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors après, Monsieur Darmanin, oui, effectivement, il dit il y a un constat à faire, mais le constat, il est simple. C'est que n'importe quel citoyen qui a déjà eu à porter plainte s'aperçoit que, un, il y a une lenteur, mais énorme, et que, deux, je pense que c'est ce qui est pire, c'est que les plaignants ne sont pas tenus au courant. Et que, comme la maman là, de la petite fille qui avait porté plainte là, en août,
maman Rosa.
Elle se fait, limite, c'est elle la
meilleure. Oui, le gendarme, au bout d'un moment, lui a dit, voilà. Écoutez, si vous continuez, on va vous poursuivre pour harcèlement.
Mais c'est quand même le monde à l'envers. Alors après, pourquoi pas non plus spécialiser un petit peu plus la justice comme
alors qu'elle avait les certificats médicaux attestant effectivement que sa petite avait été touchée, violée.
Là, il y a des dangers, il y a quand même un danger immédiat. On le fait bien pour le parquet, par exemple, antiterroriste. Pourquoi on mettrait pas non plus en place un parquet comme ça spécialisé?
C'est l'une des propositions. C'est l'une des propositions.
Je trouve que ça n'est pas normal. Il y a des gamins qui sont en danger, mais en danger immédiat. Pourquoi on ne met pas les moyens en place tout de suite et pourquoi les plaintes comme ça se perdent dans les méandres? Alors un coup c'est les gendarmes, un coup, et l'impression que en fait la plainte s'est baladée un peu partout, mais et c'est pas normal quoi. Il faut que ce soit limite instantané qu'on fasse.
En ce qui concerne le suspect, en fait depuis 2017, je crois qu'on a un total de 9 maintenant, ouais. 9 signalements ou plaintes.
Pardon, mais il y a le fonctionnement complètement archaïque où on envoie des lettres par la poste, enfin, on n'envoie pas de mail, enfin, on envoie des lettres par la poste, enfin, sincèrement, on est en 2026. Ça, c'est pas une question de moyens. Mm-hmm. Ça, c'est une question de fonctionnement, le fonctionnement à l'ancienne. Charles, t'es mieux placé que nous pour en parler, mais en fait, c'est des méthodes qu'on ne modernise pas et on fonctionne à l'ancienne.
La justice, je pense, est l'un des derniers lieux où on utilise encore des fax.
Ouais.
Bah, bien sûr, on faxe encore beaucoup de choses. On est encore, alors plus personne n'a de fax, donc c'est très compliqué. Oui, moi je sais pas envoyer un fax avec le système que j'ai au bureau, donc je suis à chaque fois obligé de demander comment on fait. Enfin, envoyer un mail qui devient un fax,
oui, c'est un truc
de dingue. Et surtout, il y a encore beaucoup de démarches physiques au palais qui évidemment prennent un temps, paraissent délirantes dans la mesure où il y a évidemment plein de choses qui pourraient être envoyées par mail. Certains...
Ça, c'est le problème de l'administration française.
Alors certains arguent du fait que le mail ne serait pas sûr, pas vrai, etc. Bon, alors il y a d'ailleurs une messagerie spéciale intra-judiciaire qui permet d'envoyer des mails en soi-disant sûr. Mais bon, il faudrait dépoussiérer tout ça, c'est pas possible. Le plus drôle étant que, c'est très français, certaines choses peuvent être faites par mail ou par la messagerie spéciale, mais d'autres doivent être faites physiquement. Et alors, pour le savoir, il faut prendre note de ce qu'il veut.
C'est bizarre quand même. Il faut pas être dupe. C'est-à-dire que là, Gérald Darmanin convoque tout le monde, effectivement. Ouais. Il y a 70 000 plaintes, donc ça fait quand même quelques dossiers à rouvrir. Tu fais ça avant l'été.
Matériellement, c'est impossible.
Matériellement, comme le dit Barbara, ça va être compliqué. Et derrière, tu vas rentrer en campagne électorale où on va juste gérer les affaires cornes. Enfin,
mais excusez-moi.
Il va rien se passer.
Mais excusez-moi, Monsieur Darmanin, il essaie de sauver sa potentielle candidature, c'est tout, voilà. Il essaie de se dire, bon là. Parce que, excusez-moi, moi, encore, j'y reviens, ministre de l'Intérieur, c'était Lola, Philippine, Elias, etc. Donc, bon, sur le ministère de l'Intérieur, il y a eu des ratés et pas des moindres, sans parler de son accusation contre les supporters de Liverpool, et il a mis 2 ans à s'excuser. Maintenant, c'est la justice. Bon, il essaie de faire ce qu'il peut pour sauver sa pseudo-candidature. Je pense qu'il devrait plutôt s'occuper véritablement des dossiers que de faire de la com politique, parce que
merci
70 000 dossiers en un mois, faut arrêter de rigoler. Hein.
Merci à vous, Sandra. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à notre discussion. Vous savez qu'il y a des appels à manifester devant 150 palais de justice ce soir.
Et devant le ministère de la Justice.
Et devant le ministère de la Justice, tu as raison, Olivier. On y reviendra tout à l'heure en fin d'émission, savoir si vous allez y aller. Est-ce que vous allez vous déplacer devant les palais de justice? Je vois que parmi les villes qui sont concernées, Nantes, Bordeaux, Brest, Dijon, Lyon, Melun, Nancy, Marseille, Orléans, Pontoise, Rennes, Saint-Étienne, Saint-Malo, Poitiers, Quimper, Strasbourg, Valence, Lille sont des villes, sont des villes dans lesquelles il y a des appels à se rassembler devant les tribunaux, devant les palais de justice. Est-ce que vous irez, vous viendrez nous en parler tout à l'heure à midi moins 20. En attendant, à 10h25, avec Bruno Poncet, Barbara Lefebvre et Charles Consigny, on reste dans les grandes gueules et dans un instant, ce sera long, on s'en fout.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, Bruno Poncé et Charles Consigny. Il est 10h moins le quart, c'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. Jordan Bardella d'abord et la princesse Maria Carolina, tout sourire hier au Grand Prix de Monaco. Première sortie publique ensemble hein, depuis l'officialisation de leur relation. On s'en fout ou pas? Charles Consigny.
On s'en fout pas.
Bruno Poncet.
Je m'en tape complètement.
Ah bon? Barbara Lefebvre.
Je m'en fous royalement. Ah bon? Royalement et princessement.
Charles Consigny.
Non, mais je trouve ça amusant.
Il faut quand même expliquer où ils étaient.
Alors, voilà. Pardon, le président du Rassemblement National a choisi le prestigieux rendez-vous monégasque. Je l'ai dit
Le Grand Prix de Monaco.
Mais oui, ce que je viens de dire.
Et ils étaient au dîner de l'Automobile Club.
Okay, pour après arrêter donc au grand jour avec son amoureuse, originaire de la Principauté, on le rappelle. Selfie, complicité, démonstration d'affection aux tribunes VIP. C'est ici au GP de Monaco qu'ils s'étaient rencontrés il y a un an, faut le dire.
Non mais je trouve que tout est énorme sabot, si vous voulez, entre la fausse princesse, les princesses comme je suis archevêque de Canterbury, tu
ah
vois.
Bon
c'est pas, pardon, mais c'est
jaloux, Charles.
Non mais excusez-moi,
tu rêverais d'être princesse.
Mais pas du tout, ça n'est pas une princesse. c'est pas Kate Middleton, si vous voulez. C'est voilà, les princesses comme plein de gens s'autoproclament ceci ou cela, mais bon. Donc c'est une fausse princesse à mes yeux et je trouve que Prince Jordan a des manières d'essayer de se notabiliser que je trouve grossières, voilà. Je trouve ça vulgaire pour vous dire les choses.
Vulgaire carrément. Ouais.
Quand j'ai regardé les images hier, j'ai trouvé ça vulgaire. Je trouve qu'il y a un côté parvenu.
Est-ce que ça le coupe pas un peu maintenant de ces histoires de
sans doute le fait-il de manière très pensée. Je pense qu'il essaye de se notabiliser, ce qui, ça, à mon avis, lui est nécessaire. Et en même temps, en faisant ça, il a un côté grisé par son appartenance nouvelle au monde des riches et des puissants.
Au quota.
Ouais, les classes populaires à pression.
On enchaîne. Anaïs.
Le décès de Bernadette Chirac, les GG, vendredi à l'âge de 93 ans, cela vous a ému ou pas, Bruno?
Bah, ému, peut-être pas non plus, on va se détendre, mais bon.
D'accord. Charles.
Quelqu'un que j'ai vu.
Ah, j'aimais bien Bernadette.
Ma chère Barbara.
Oui, moi, je trouve que c'était une femme avec une personnalité vraiment affirmée. C'était une femme politique, avec un grand sens. D'abord, c'était une femme politique, elle a été élue, mais elle avait un grand sens politique. Et je pense que son mari aurait été bien averti de l'écouter plus souvent, notamment lorsqu'elle le mettait en garde contre Dominique de Villepin. Alors, je pense qu'elle aurait vraiment dû l'écouter à l'époque.
Elle appelait Néron publiquement, d'ailleurs.
Oh, bah oui, non, mais de toute façon, enfin, Dominique de Villepin. Bref, passons sur ce sujet. Qui est un non-sujet. Elle avait vraiment de l'épaisseur, du charisme. Et en plus, je pense qu'elle a été utile, et vraiment utile, en toute discrétion, et avec une force pour les enfants et les gens malades avec la Fondation des Hôpitaux de France. Elle s'y est vraiment consacrée de façon absolue. Et c'était une femme très pince sans rire. Enfin, bref, je trouve que c'est une femme de son époque, tout en étant la française traditionnelle, la bourgeoise catholique de province, telle qu'on les aime.
Bernadette Chaudron de Courcelles.
Voilà. Eh ben, c'était pas Nouvelle France, et franchement, je préfère.
Et première femme, première dame, pardon, à avoir effectué un mandat politique.
Est-ce qu'on nous l'a pas survendu? Alors bravo pour son engagement pour les pièces jaunes et la maison de Solène, parce que ça faisait référence aussi une épreuve que les Chirac ont vécu eux-mêmes. Enfin, à part ça, on nous a survendu le rôle de Bernard Chirac, qui était quand même une femme trompée pendant 50 ans.
Pas soumise du tout.
Et si Jacques Chirac, qui lui était une bête politique, est devenu président réélu, c'est grâce à Jacques Chirac.
Non, c'est une légende
de nous faire croire que Bernard Chirac a fait Jacques Chirac.
Qu'elle soit trompée, elle n'est pas la première ni la dernière.
À l'heure des parvenus.
C'est une aristo, oui, c'est sûr.
Au moins, voilà quelqu'un qui n'était pas vulgaire, Bernadette.
Oui, elle était bien née.
Et je suis désolé. Mais alors, peut-être.
C'est
mais
du mépris de classe,
Charles. Elle n'était pas vulgaire. Moi, pardon, j'en ai marre de cette espèce de déversement de vulgarité qu'on a maintenant partout tout le temps. Moi, j'aimais bien la tenue de Bernadette Chirac. Je trouvais qu'elle
elle
était.
Elle se serait pas très moussée avec des.
Ça, c'est sûr que c'est la
elle se serait pas très moussée avec des chanteurs de rap, si vous permettez de le dire.
Ils se vous voyaient entre eux, hein.
C'est très bien.
Bruno.
Moi, ce que je vois, c'est que c'est peut-être un peu de nostalgie de la part de boomers comme nous. C'est qu'en fait, c'est vrai que derrière elle, toutes les premières dames qu'on a eues, c'est vrai que ça s'est pas été en s'améliorant. La dernière qui a
débuté. Moi, je préfère Carla Bruni à Bernadette Chirac.
Ah, mais
on dira rien au futur, mais. Que renvoie Carla Bruni à Bernadette Chirac.
On va être sympa avec toi, on dira rien sur toi avant une semaine de ton mariage, mais quand même, toi, c'est sûr, Carla Bruni, tout de suite,
mais
ça papillonne dans tous les ans.
Courir après la modernité, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la modernité?
Je trouve qu'elle symbolise plus la France d'aujourd'hui que la France.
Mais la France d'aujourd'hui, c'est quoi la France d'aujourd'hui?
Mais vous la détestez, la France d'aujourd'hui.
Ah, bah oui.
Vous êtes des réacs, mais pardon.
Excuse-moi.
Et Charles, quand même, de plus en plus, moi, je trouve.
Non, mais moi, j'aime bien les gens qui se tiennent. Bernadette se tenait.
Exactement.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand t'as fustigé Chirac devant tout le monde parce qu'il était en train de draguer devant elle.
Et puis elle avait
exceptionnel
une voiture exceptionnelle. En tout
bien sûr,
ça, c'est vrai, elle avait le bon brushing.
Et Dieu sait si c'était pas ma cup of tea idéologiquement, mais même Danielle Mitterrand, elle se tenait. Elle se tenait.
Ils vivaient pas ensemble.
Mais c'est
une hypocrisie. Écoute, mais c'était le bal des faux-culs,
On va pas se lancer sur le bal des faux-culs aujourd'hui aussi.
Daniel Mitterrand, comme la pauvre.
Elle se tenait. Tu parles de Daniel Mitterrand.
Elle se tenait, mais pas à côté de
Mitterrand. Mais elle a mis mal à l'aise son mari, quand même, en tant que président de la République.
En défendant Fidel Castro.
Plusieurs fois, notamment en défendant Fidel Castro.
Elle était réellement engagée. Et puis alors, elle, contrairement à son mari, elle était vraiment de gauche.
On te parle de personnalité, mais c'est incroyable.
Madame Danielle.
Elle aussi, elle était soumise, pardon, Danielle Mitterrand. Mais François Mitterrand ne vivait plus avec elle depuis longtemps. Elle avait fait un enfant, d'ailleurs, avec une autre part. Et elle, uniquement par devoir, entre guillemets, acceptait de jouer la fausse.
Peut-être qu'elle faisait sa vie,
première
aussi,
dame.
T'inquiète, elle avait sa vie. Hein.
Mais moi, je trouve pas ça très moderne.
Mais Olivier, si on met le truc en équerre, là, dans les derniers présidents.
Non, ce qui est moderne, c'est François Hollande.
Il y en a qui divorcent le jour de son élection. L'autre, il va faire du scooter pour aller draguer une actrice.
Je préfère des présidents vraiment amoureux comme François Hollande.
Certainement une actrice iranienne. Je vais te dire un truc. En ce moment, voilà, tout sort partout, on s'en fout. En fait.
Moi, je préfère des présidents amoureux, vraiment, comme Hollande, Sarkozy, plutôt que des couples fictifs. Le couple Chirac est un couple fictif et le couple Mitterrand.
Je trouve que vous avez passé sous silence Anémone Giscard d'Estaing, ce qui est quand même bien dommage. Et puis Tante Yvonne, dont on n'a jamais entendu le son de la voix.
Et c'était très bien comme ça.
Et qui n'a pas été trahi non plus par Giscard d'Estaing, qui était un serial pinner. Mais bon, c'est tout.
On enchaîne.
L'autre, il a fait un bouquin, il explique qu'il les a toutes serrées, dont Lady Di.
Elle
n'a jamais tout confirmé.
Enchaîne.
Le rapporteur de la commission de l'audiovisuel public, Charles Alloncq, les GG, accuse Xavier Niel d'être derrière la paparazzade publiée dans Paris Match. Vous savez qu'il le montrait devant chez lui avec sa collaboratrice parlementaire. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Bruno?
On ne s'en fout pas.
Barbara?
On ne s'en fout pas.
De quel droit un milliardaire mécontent d'avoir eu à rendre des comptes peut-il utiliser ses moyens financiers pour intimider un parlementaire dont le seul tort est d'avoir enquêté sur ses contrats passés avec le service public? Voilà ce qu'a écrit Charles Alloncq sur ses réseaux sociaux. Barbara, pourquoi tu t'en fous pas?
Non, on s'en fout pas. C'est une information sortie par Mediapart, donc c'est pas non plus l'extrême droite. Donc je pense que Monsieur Niel devrait s'expliquer. Parce que effectivement, faire circuler. Alors, Mediapart ne dit pas que c'est lui qui a transmis à Paris Match, mais il dit que c'est Monsieur Niel qui faisait circuler dans le tout Paris jusqu'à ce qu'évidemment, par inadvertance, étant donné qu'il a racheté Monsieur Niel Best Image à Mimi Marchand. Oh, j'adore cette ambiance tellement gotha, tellement chic, Mimi Marchand. Condamné par la justice pour toutes sortes de malversations.
Grande amie des Macron.
Et grande amie des Macron. Bah, c'est elle qui nous a fait les couvertures de Brigitte et Emmanuel dans l'eau, fendant les flots. Enfin bref, toute cette comique de comique de troupe. Bref, tout ça se termine en débandade avec Monsieur Niel qui maintenant fait circuler des fausses photos.
La vengeance
qui
ne mène du milliardaire.
À rien. Oui, bah la vengeance de rien, parce qu'en l'occurrence, il est pas aussi doué que Mimi Marchand apparemment, parce qu'il sait même pas faire des coups montés.
Bruno.
Moi, ce que je vois, c'est que
à l'oncle,
après avoir s'être servi de cette commission pour régler des comptes et puis pour être. Alors, il a sorti quand même des dossiers qui aujourd'hui quand même méritent d'être traités, ça c'est clair. Après, il en a fait un truc personnel. Il a mis sur la place publique certaines choses vis-à-vis de Nagui et d'autres, et ils l'ont pas bien aimé. Bah, il a le retour de bâton après. Mais après, en tout cas, le déontologue de l'Assemblée nationale, qui a l'air d'être assez souple, dit qu'il se passe rien, que tout va bien. Bah, tant mieux. Alors, à la limite, pourquoi aujourd'hui revenir en arrière en disant que c'est la faute à Niel? Il s'en fout, en fait, lui. Ce qu'il se dit, c'est que personne n'a rien. Tout le monde le laisse faire ce qu'il veut. Donc, il peut après s'amuser avec son assistante parlementaire. Tout va bien. Donc, il n'y a pas de sujet, en fait.
Je comprends pas pourquoi vous dites tous Niel pour Niel. Non, mais si c'est établi, moi, je trouve que c'est gravissime. Ouais. Déjà, j'avais trouvé que Xavier Niel avait fortement manqué de respect aux représentants de l'Assemblée, aux représentants du peuple, aux députés qu'il interrogeait. Il a quand même snobé le premier rendez-vous parce qu'il était à Courchevel. Donc, franchement, non, mais il y a des limites. On sait que Niel est beaucoup plus puissant que les 577 députés réunis. Mais d'ailleurs, c'est un problème dans une société démocratique. Mais qu'au moins, il montre du respect. Je veux dire, quand Bernard Arnault va devant les députés, il arrive à l'heure, il vient le jour où on lui a demandé, il répond aux questions. Et il garde son calme. Donc déjà ça, j'avais trouvé sa limite.
Comme Monsieur Bolloré.
Mais si après, si c'est avéré qu'il a fait suivre un député par un photographe pour le mettre dans la merde, etc. Franchement, c'est pas digne. Voilà. Moi, si j'étais à Longue, je porterais plein de
belles. Les méthodes de Barbouze. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, la deuxième heure des GG, on va parler politique, le lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Denis, je suis le meilleur rempart contre le suprémacisme du Rassemblement National, a lancé Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est le meilleur candidat de la gauche? Qu'est-ce que sa campagne est bien lancée? Il y avait Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, tout l'état-major de la France Insoumise et Rima Hassan. On parlera de la transparence salariale. L'Europe demande à la France d'appliquer la transparence salariale dans les entreprises. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est démago? Restez avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et la radio, RMC Story, la télé.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.